Le festival des expositions réalisé par des apprentis du Master Expographie Muséographie de l'Université d'Artois s'est déroulé du 2 au 5 octobre à l'Hôtel de Guine d'Arras autour de 13 mini-expositions qui font appel à la curiosité avec des thématiques d'actualité ou de société, qu'elles soient écologiques, instructives, en rapport avec le vivant, mais en alertant, en sensibilisant ou en faisant comprendre le pourquoi du comment au public dans un but ludique. Je vous propose un panel de deux expositions expliquées par les étudiantes qui les ont réalisées. On parlera de la vie dans les océans qui nous interpelle avec Joséphine, mais on commence avec Pauline qui nous interpelle sur le recyclage des coquilles d'œufs. Joséphine, bonjour.
Bonjour.
Alors, toi, tu nous as préparé quelque chose dans l'exposition. Il y a une petite maison, il y a des œufs, et ça s'appelle Eggs Exposition. Donc, tu peux nous présenter un petit peu ce concept ?
Oui, donc l'exposition, elle tourne autour d'un poulailler, et l'idée, c'est de montrer tout ce qui se cache derrière une coquille d'œuf qu'on ne soupçonnerait pas, en montrant à travers une petite manipulation qui parle des propriétés de la coquille, donc sa capacité à supporter une pression, avec une petite main sur laquelle on vient presser des œufs qui est proposée, aussi un petit arc à reconstituer puisqu'il rappelle la forme de l'œuf. On a une animation qui est disponible qui montre la formation de la coquille, donc une animation, un stop motion, et puis un petit cartel qui présente la situation, à savoir le fait qu'on consomme finalement beaucoup d'œufs et qu'on jette plus de 40 000 tonnes de coquilles d'œufs par an sans les réutiliser. L'idée du coup, c'est de venir montrer qu'il y a des projets de revalorisation qui existent, aussi bien à échelle industrielle qu'artisanale, et que de toute façon les particuliers peuvent déjà tout à fait, eux, revaloriser les coquilles chez eux dans leur jardin pour alimenter leur sol ou pour les redonner à leurs poules directement. Et d'accord. On le fait avec différentes formes de coquillages et de mollusques, puisque les coquillages et les mollusques, sont également composés de carbonate de calcium qui cristallisent sous une forme différente. Ce n'est pas les mêmes conditions de formation que celles d'une coquille, mais il y a des liens qui peuvent être faits par cet élément commun, donc le carbonate de calcium. Et donc, on vient montrer, là récemment, puisque vous avez dû le voir passer cet été, la piste des Jeux Olympiques, qui a été réalisée avec des moules, au lieu de récupérer le carbonate de calcium.
Alors ça, c'était où ? C'était au Stade de France ou...
Oui, tout à fait, au Stade de France. Donc la piste violette qui a été réalisée par des fabricants italiens. Et donc, ce sont des moules qui viennent de Sicile, qui ont été séchés et qui ont été réutilisés. Ensuite, puisque l'exposition parle des œufs, quand même, montrer des projets qui sont déjà faits, mais qui sont commercialisés. Donc en Angleterre, actuellement, des dallages qui sont réalisés avec des coquilles broyées, puis pigmentées avec des colorants naturels. Sinon, montrer également d'autres projets de valorisation sur de la céramique ou des bougeoirs, tout ce qui va être décoratif. À plus grande échelle, un projet qui existe dans la région de Nouvelle-Aquitaine, qui est investi beaucoup là-dedans et qui aujourd'hui met en place des collectes avec des huîtres. Donc c'est du béton coquillagé qui a été réalisé pour accueillir tous les touristes sur le site de la dune du Pilat. Qui est un projet qui a été réalisé avec l'université de Pau, qui travaille aujourd'hui du coup sur la valorisation d'autres coquillages. Et puis un projet qui est en cours de test avec des coquilles Saint-Jacques pour réaliser un pavé qui permettrait d'assurer une meilleure perméabilité du sol. Donc ça, ce sont les éco-pavés de la marque Vecop. L'exposition ensuite propose un petit témoignage audio qui revient sur le projet à valorisation des coquilles d'huîtres qui sont faites sur la dune du Pilat. Donc l'idée, c'est de montrer ce qui se cache derrière un déchet de notre quotidien qu'on ne regarde plus et qui finalement est une véritable prouesse de la nature que la poule arrive à réaliser en un temps record en elle, en une vingtaine d'heures, ce qui est la minéralisation dans le monde vivant la plus rapide, qui est pleine de ressources, et que changer de regard en fait sur ce qui est un objet qui est devenu banal et dans notre quotidien et qu'on ne voit plus.
On jette les coquilles d'œufs à la poubelle, et puis après il y a eu toute cette ce qui est normal, le tri des déchets, et on nous dit surtout ne jetez pas les coquilles d'œufs dans les déchets parce que c'est pas bien, donc
parce qu'il il peut y avoir un risque de propagation de salmonellose ou bien des odeurs qui se dégagent. Donc à échelle industrielle, si on veut réutiliser les coquilles, la réglementation européenne classe les coquilles d'œufs comme un déchet de catégorie 3. Il faudrait les stériliser pour pouvoir les réutiliser ou bien les incinérer. Et voilà, il y a d'autres pays qui aujourd'hui les valorisent comme l'Angleterre, mais pour l'instant c'est comme ça ici.
Et j'ai encore deux petites questions. La première, c'est coquille d'œuf, évidemment, coquillage, huîtres, etc., etc. On peut faire plein de choses, finalement. Bah, ça démontre qu'on peut recycler et faire plein de choses, même artistiques, la preuve. On est. Et en même temps, c'est valable aussi pour les coquilles d'œufs d'oie, d'autres animaux comme les canards, etc. C'est la même texture ou c'est différent ?
Alors, pour tous les oiseaux, effectivement, on a une composition similaire avec du carbonate de calcium. Maintenant, la production annuelle d'œufs de canard, je ne suis pas renseignée sur la question.
Oui, je me doute bien, mais bon, c'était une question que je me posais, en fait.
Mais par contre, il y a plus proche de nous, Lille qui, par exemple, pour la braderie, là, s'était engagée à ramasser toutes les moules qui allaient être consommées.
Ah, oui.
Et il y a des entreprises comme Westerial ou Waste-Erial, je ne sais pas comment ça se prononce, cette marque, qui proposent de les récupérer, de les nettoyer, qui vend déjà des échantillons et des produits qui sont commercialisés sur les boutiques à Lille, voilà, qui sont disponibles. Donc ça, c'est avec une production qui est plus proche de chez nous, les moules.
Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, on en a appris beaucoup plus sur les coquilles d'œufs et puis autres. Et est-ce que, question bonus, hein, est-ce que c'est un sujet qui te tenait à cœur, justement ? Est-ce que comment tu t'es intéressé, justement, à ce genre de choses ? C'est pas évident, en fait.
Avant de travailler dans le secteur culturel, j'étais étudiante en sciences des matériaux et c'est un sujet sur lequel on m'avait lancé. Donc c'est un sujet que je voulais réexploiter cette fois, mais au-delà des sciences des matériaux, parler aussi, pouvoir intégrer le design et des projets qui sont déjà réalisés, ce que moi j'avais pas vraiment expérimenté ou j'avais pas pu vraiment en parler jusqu'à présent. Donc c'était intéressant pour moi d'aller faire ce travail de recherche à droite à gauche des différents projets qui existent et qu'on peut retrouver autour de nous. Et puis c'est vrai que comme on est dans les Hauts-de-France, donc ça ce sont des coquillages présents dans l'exposition qui viennent du Pas-de-Calais, et puis il y a déjà... Avec le master, j'ai vécu à Dunkerque l'année dernière et il y a plusieurs entreprises aussi qui s'engagent à récolter les moules. Donc voilà, c'est un sujet qui était autour de moi. Et comme la loi a changé cette année sur la revalorisation des déchets pour les industriels, qui est revenue sur la table assez régulièrement autour de moi.
Pauline, donc on est dans les écuries de l'hôtel de Guine, hein, donc pour ce festival des expositions, et là il y a quelque chose quand même qui est assez immersif, et ça parle des océans. Alors tu peux nous expliquer un petit peu le concept de cette expo et pourquoi on est un petit peu dans le noir?
Alors le concept de cette expo, c'était de parler de la communication animale sonore, particulièrement sous l'océan, et notamment d'évoquer aussi la pollution sonore. Et l'idée, c'était de suivre deux parcours différents, de deux animaux différents, une baleine à bosse et un saumon. Et moi, je voulais faire un truc complètement immersif, où juste on est bercé par un espèce de podcast, au final, de exposition, où je crée une ambiance très bleutée, avec des vagues pour nous immerger vraiment presque dans l'eau. Et moi, je raconte quelque chose au casque, pour les visiteurs qui passent et qui suivent du coup les histoires de chacun de mes personnages, pour en apprendre un peu plus comment ils communiquent dans l'eau avec leurs congénères ou avec d'autres animaux.
Voilà. Elles ont des prénoms, tes personnages?
Ouais, ils ont des prénoms. Ma baleine à bosse s'appelle Bali. Bali et son petit s'appelle Yuzu.
D'accord.
Et mon saumon s'appelle Finn.
Quand les gens ils se sont immergés, on va dire... Dans cet univers, c'est quoi le retour qu'ils te font ?
C'est un peu la sieste. Quand ils ressortent, il y a un peu un choc, pas thermique, mais avec la lumière, parce que du coup, on est dans le noir, quasiment. Et ils me disent que c'est très, très relaxant, et qu'ils sont bien immergés, que ça fonctionne très bien, et que voilà, c'est apaisant comme moment en compagnie de ces animaux-là.
J'imagine aussi que tu es sensible du coup à ce qui se passe dans les océans, parce qu'on sait que la pollution plastique, etc., et puis... les baleines qui sont chassées aussi encore dans certains pays alors que normalement c'est interdit. Donc comment toi tu vois ça, et puis comment tu as été sensibilisé justement à cet univers qui est un peu inconnu pour ceux qui habitent sur Terre, comme nous les êtres humains.
Juste, je ne sais plus trop comment ça a commencé, mais je suis très passionnée par... alors j'ai pas du tout une formation scientifique, mais je suis très passionnée par les océans. Je trouve que c'est un monde fascinant et qui, justement, parce qu'on est très inconnu, j'aimerais bien qu'on le connaisse plus, parce que c'est essentiel à notre vie, même autant que la forêt amazonienne, même plus. Si on n'a pas d'océan et s'il n'y a pas d'habitants dans les océans, c'est très dangereux pour nous.
Les sons qui passent dans les casques des gens... Comment tu te les as procurés? Est-ce que tu as fait des recherches spécifiques? Est-ce que tu as contacté des centres spécialisés?
Alors pour les sons spécifiquement, j'avais quelqu'un qui travaille en ingénierie son, donc qui est un peu éloigné de ça, mais qui connaissait du coup une plateforme par une université américaine qui justement permettait en fait d'écouter des sons de baleines ou d'autres choses aussi, et de poissons ou de phoques et tout ça. Donc j'ai récupéré ces sons ici, et puis après oui, je me suis beaucoup documentée sur les sites d'universités notamment américaines et même françaises qui documentent beaucoup le sujet, parce que en fait, en tout cas pour les baleines, c'est très documenté depuis les années 70 avec la découverte de leur chant. C'est une information qui est en libre accès, mais qu'effectivement on connaît pas trop parce qu'on n'a pas l'idée d'aller chercher, mais en fait c'est des informations qui sont tout à fait accessibles, en tout cas sur internet. Après, en termes de compréhension, c'est en anglais, ou des fois c'est très scientifique, donc très technique, donc ça peut être un peu rude, mais en soi c'est des informations tout à fait libres d'accès, et c'est comme ça que je les ai trouvées.
Ouais, et la première partie de ma question, je viens de m'en rappeler, c'était pas vraiment une question, c'est le fait que les baleines sont chassées un petit peu partout dans le monde, donc du coup j'imagine que t'es aussi sensible à ça. On sait que le saumon, il est aussi élevé dans des pisciculture, on va dire, et que c'est pas non plus la panacée, on va dire, dans ce qu'on consomme, parce qu'on consomme du poisson. Par contre, les baleines, normalement, c'est interdit. Alors, je sais pas si...
C'est effectivement interdit. Le saumon, il y en a plus beaucoup, notamment en France, en termes de... à l'état naturel. Effectivement, on les trouve quasiment qu'en élevage, maintenant. Et je n'appartiens pas à l'association de protection des cétacés, mais après avoir travaillé sur ça, je m'étais dit pourquoi pas effectivement rejoindre Sea Shepherd ou des choses comme ça, parce que effectivement normalement il y a une juridiction, c'est comme ça on dit, une juridiction internationale qui interdit effectivement de chasser les baleines. Et ce serait sympa qu'on arrête, parce que on a réduit. Il faut savoir que depuis les années 70, elles étaient encore plus chassées avant. Et on a perdu des espèces depuis des dizaines d'années, et on a réduit de moitié par la chasse la population de baleines qui avait, enfin de cétacés tout confondu, qui avait sur notre terre. Voilà.
Reportage réalisé lors du Festival des Expositions qui s'est déroulé du 2 au 5 octobre à l'Hôtel de Guine d'Arras et mis en œuvre par des apprentis du Master Expographie-Muséographie de l'Université d'Artois.